Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine Muriel Zach qui nous parle de son nouveau roman Elafteria, paru aux éditions Emmanuel Collat. Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
C'est notre émission de rentrée, je suis absolument ravie de vous recevoir. Et pour débuter, on va dire quelques mots de présentation et vous me coupez si vous voulez ajouter des choses ou si je me trompe. Vous êtes autrice d'une vingtaine d'ouvrages destinés à la jeunesse ou des ouvrages de poésie et le fil conducteur de votre œuvre serait la transmission. Et votre actualité, c'est justement un roman dont l'histoire tisse des liens entre le passé et le présent et une nouvelle fois, le thème de la transmission l'irrigue. Elafteria, c'est son titre, ou le récit croisé de destin des Juifs de Crète, mais aussi de leurs concitoyens orthodoxes, non-juifs donc. Et tout commence en octobre 1940, quand la communauté célèbre Rosh Hashanah, et notamment Tachlir, ce moment de la fête du Nouvel An où l'on jette ses péchés à la mer, ou dans un point donc quelconque. Et en Crète, la coutume est de poser une bougie sur une embarcation de paille et de l'envoyer au loin par une pichenette. On entre dans votre récit avec beaucoup de poésie parce qu'on s'imagine très bien la description de ces lieux, on le visualise dans notre tête et on sent déjà dans vos mots, dans cette écriture très poétique, que quelque chose de tragique va avoir lieu, va se passer. Et c'est le cas puisque les mesures discriminatoires à l'encontre des Juifs vont s'abattre progressivement sur l'île jusqu'à la disparition totale de sa population juive. Et c'est vrai que c'est une histoire finalement qui est méconnue parce qu'on parle souvent de Salonique et aussi en Grèce hein, où toute la population juive a été exterminée, mais on oublie que la même chose s'est passée en Crète. Et pendant 4 années, on suit ces destins attachants dont l'issue sera tragique, d'autant plus qu'auparavant, les portraits tout en délicatesse de femmes et d'hommes qui s'entrecroisent en Crète pendant la Seconde Guerre mondiale sont esquissés, ce qui les rend vraiment plus qu'attachants. Hein, vraiment, on fait partie, on suit leur quotidien. Et ça donne donc un roman à la fois poétique et tragique sur fond d'une histoire mal connue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce roman? Comment vous est venue l'idée d'écrire à la fois sur ce lieu et sur cette période de l'histoire?
Tout simplement, d'abord, ça commence par la Crète. Parce que ça fait une dizaine d'années qu'avec mon compagnon, nous nous sommes installés en Crète. D'accord. Et on est tombé amoureux de cette île, de ces gens, de ces paysages. Et presque tout de suite, j'ai cherché à savoir, quel avait été d'abord, pourquoi il n'y avait pas de Juifs sur cette île et quel avait été le destin de cette communauté. Et donc, j'ai découvert cette histoire tragique complètement méconnue. Et en fait, j'ai été assez vite obsédée par l'idée de leur redonner vie, de leur redonner des visages, de leur redonner une histoire et de non seulement faire connaître, mais plus que ça, faire revivre ce qu'avait dû être et ce qu'avait été ce moment tragique de leur vie, mais aussi ces destins d'hommes et de femmes pris dans les tourmentes abominables de l'histoire. Et aussi les Crétois, comme vous l'avez dit.
Alors, beaucoup de touristes se rendent en Grèce l'été, et pas seulement, sur l'île de Crète, et on peut aller visiter une synagogue. Une synagogue pour une île sans juifs.
Oui, alors c'est l'histoire très particulière de la synagogue d'Etzraïm. Il y avait plusieurs synagogues autrefois. Hein. Il faut savoir quand même que la présence des Juifs en Crète, elle a 2500 ans. Elle avait 2500 ans, ce que je mets en scène dans mon roman à rayer d'un trait de plume. Et notamment à Rania, à Canée, il y avait 2 synagogues. L'une a été détruite pendant le bombardement avec l'invasion aéroportée des nazis au début de la guerre. Et la deuxième, Etzraïm, avait été abandonnée. Elle a simplement repris vie grâce au travail obstiné de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, c'est un lieu absolument, non seulement un lieu de mémoire, mais un lieu multiconfessionnel et qui est ouvert, et notamment à la visite, comme vous dites.
Et c'est un lieu de pèlerinage aussi, parce qu'il y a des tombes de tzadikim. Et il faut dire qu'une partie de votre roman se trouve dans ce quartier-là, du port de la Canée. Est-ce que c'est là que les choses se passent?
Oui, une bonne partie du roman se passe là. Alors, pas que, hein, il y a aussi les villages, bien entendu. Alors, mais ce petit quartier d'Evraïki, qui est l'ancien, en fait, ghetto juif vénitien, et qui est un petit quartier de quelques ruelles, avec ces vieilles maisons qui s'entrecroisent, qui s'entrelacent, et c'est là où habitait l'essentiel de la communauté juive, bien au début de 1940.
Alors, on l'a dit, hein, la transmission est le thème fédérateur de votre œuvre. C'était presque une nécessité dans ce nouveau roman de parler encore de transmission, puisqu'on suit l'histoire d'individus juifs.
Oui, la transmission d'une histoire, la transmission de pas d'une identité, mais de qu'est-ce qu'on fait avec cette identité. Et ça, j'avais vraiment envie de montrer la multiplicité des possibles aussi. Et cette question que je trouve fondamentale, qui est, on est dans une communauté, dans une histoire, dans un parcours, des gens ont fait quelque chose avant nous, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc j'avais vraiment envie de transmettre ça, mais aussi qu'on ne les oublie pas, bien entendu.
Alors, il faut jamais poser cette question à une romancière de la part de la réalité et de l'histoire dans votre roman, mais on sent que vous êtes beaucoup documentée et qu'il y a des bases réelles dans cette histoire.
Oui, bien sûr, il y a des bases réelles. Alors après, c'est vrai que c'est délicat de dire ce qui vient du réel ou pas du réel, mais ce que je peux simplement peut-être essayer de vous faire sentir, c'est que j'ai visionné quelques rares témoignages vidéo, par exemple, lu quelques bribes de documents, et puis à la synagogue Etzraïm, il y a une historienne qui m'a ouvert tout ce qu'elle a comme archive. Et à partir de là, ce sont les petits éléments, parfois une phrase, une demi-phrase, qui font naître carrément un personnage ou une scène. Par exemple, vous évoquiez la scène de Tachelir. Eh bien, en fait, j'ai découvert dans l'interview d'une des quasi dernières survivantes qu'elle évoque simplement d'une phrase qu'il y avait cette cérémonie de cette manière-là. Et ça m'a donné envie de toute cette scène. Et il y a beaucoup de petits détails. Je me suis beaucoup documentée pour pouvoir m'éloigner du réel. Il fallait d'abord que j'aie vraiment le réel.
Alors vous avez le réel et puis vous avez ces personnages qui sont décrits très précisément, et notamment ces femmes. On a l'impression que ce sont les femmes finalement, les héroïnes de votre histoire. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça ?
Oui, un peu, tout à fait, oui. Tout à fait. J'avais envie. Il y a des hommes hein, qui jouent des rôles. Hommes, il y a le photographe polonais, oui. Petros. Il y a le militaire italien, Luigi. Enfin, il y a d'autres. Il y a Yorgos, le résistant communiste. Mais c'est vraiment des destinées de femmes dont j'avais envie de montrer à la fois l'ampleur, le courage, la force, et puis la liberté de choix qu'elles avaient.
Et des femmes amoureuses aussi, très souvent.
Des femmes amoureuses, des femmes qui choisissent quand même leurs histoires d'amour aussi. Il y a notamment une jeune juive qui va se faire un petit peu mettre au banc de sa communauté parce qu'elle va jusqu'à épouser Yorgos, qui est donc un crétois orthodoxe. Et puis leur destinée, leur manière de choisir leurs amours montre aussi cette aspiration à leur liberté.
Cette liberté, hein, finalement, de choisir son destin, et puis, comme vous le disiez, souvent de s'unir en dehors de la communauté juive.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut quand même se représenter cette communauté à l'époque. Elle vit vraiment beaucoup avec les crétois orthodoxes. Ils sont ensemble. Il n'y a pas de... comment dire ? Il n'y a pas de ghettoisation.
Oui, de séparation.
Voilà, non. Ils vivent ensemble. Alors, par contre, vivre une histoire d'amour en dehors de la communauté juive, et puis encore plus loin, vivre une vie de couple, alors ça, par contre, c'était une vraie transgression.
Alors, vous expliquez clairement les étapes historiques au fur et à mesure, hein, des mesures discriminatoires qui sont prises à l'encontre des Juifs, les Allemands qui arrivent. Et puis, face à tout cela, il y a ces personnalités crétoises, ces hommes qui se comportent de manière eux aussi héroïque. Est-ce que la réalité, elle était celle-ci, que les Crétois ont lutté contre les nazis ?
Ah oui, très fortement. Les Crétois et les Crétoises, d'ailleurs, c'est un peuple de résistance. Alors, faut imaginer aussi qu'il y a eu des siècles d'occupation. Il y a eu les Sarrasins, les Byzantins, l'occupation ottomane. Et depuis toujours, ils se sont forgés. C'est pas seulement un mythe, c'est pas une légende. Il y a un vrai caractère de rébellion et de résistance. Alors, dès le début, les Crétois sont farouchement hostiles aux nazis. Et effectivement, ils s'organisent pour résister. Ce qui met d'ailleurs en fureur Hitler. Et les nazis vont avoir un comportement extrêmement dur, extrêmement violent contre les populations crétoises, justement à cause de cette résistance-là.
Alors c'est terrible, hein, il y a des populations entières, hommes, femmes, enfants, vieillards, quel que soit l'âge, quel que soit le rôle dans la société, qui sont exterminés, comme vont l'être par la suite les juifs. Et finalement, l'ouvrage se termine, on ne peut pas tout raconter, mais il n'y a plus de juifs sur l'île de Crète. Est-ce que la réalité est celle-ci aussi, ou c'est un choix littéraire ?
Non, la réalité c'est celle-ci. La tragédie vers laquelle vont mes personnages elle est vraiment très exacte, alors pour le coup, très historique. Et on peut dire qu'il y avait à peu près 400 juifs avant la guerre et plus du tout après. Et je crois qu'aujourd'hui, alors si je dis qu'il y a une vingtaine de juifs en Crète, peut-être que c'est pas plus que ça.
Alors le récit est tragique, hein. Vous venez de le dire, on le suit, mais finalement il y a quelque chose de très solaire dans ces personnages, même s'ils nous quittent à la fin et qu'on sait que c'est un aller sans retour. C'est étonnant finalement cette dialectique entre le tragique et le positif.
C'est justement une des choses que je voulais montrer, c'est que malgré les atrocités de l'histoire, malgré ce qui vous pèse sur les épaules, ces hommes et surtout ces femmes, elles se mettent du côté de la vie. Même quand elles vont vers des destins très très douloureux, elles restent alors à la fois en phase avec cette terre aussi, qui est une terre dure, une terre de résistance, mais une terre solaire, et elles sont toujours du côté de la vie quand même. Elles sont fortes en fait, par choix, presque par éthique.
La géographie, la terre est importante aussi. On voit tout ce qui se passe du côté du port, la mer, mais aussi dans les montagnes où la résistance se met en place. Alors, vous nous l'avez confié en début d'entretien. Vous connaissez l'île de Crète. Vous êtes inspiré de vos vagabondages pour décrire ces paysages ?
Oui, réellement. C'était aussi un des plaisirs que, à la fois, j'allais dire, je voulais m'offrir, mais je voulais offrir aux lecteurs, à ceux qui ont envie de connaître la Crète comme à ceux qui la connaissent. C'est une terre somptueuse et c'était aussi un livre qui est un petit peu une lettre d'amour à cette Crète qui m'a si bien accueillie, qui nous accueille tous si bien et qui est avec ses montagnes, avec ses odeurs, avec ses paysages, avec sa cuisine, avec sa mer, vraiment un lieu... en toute inobjectivité, absolument magnifique.
Et on le ressent vraiment dans votre écriture. Et finalement, la question qu'on se pose quand on ferme le livre, c'est que vous, en tant qu'autrice, est-ce que vous ressortez indemne d'une telle histoire, d'un tel récit ? Est-ce que vous restez imprégnée par les personnages, par l'île sur laquelle vous vivez ? Est-ce que vous arrivez à mettre un point final à une telle histoire ?
Ça, c'est complètement impossible parce que je vis avec eux. Je vis avec elles surtout. Et même si, en plus, certains de mes personnages, évidemment, je leur ai emprunté des traits de personnes que je connais. Donc, je les croise. Et puis, même celles qui ont disparu tragiquement, je les croise dans la rue. Je trouve qu'au contraire, c'est pas des fantômes, ce sont des lumières qui continuent à m'habiter, à nous accompagner.
Est-ce que vous avez déjà une idée de l'accueil qui est réservé à ce livre ? Il est sorti depuis quelques semaines. Est-ce qu'on vous en parle ? Qu'est-ce qu'on vous en dit généralement ?
On a eu la chance, avec Emmanuelle Collas, mon éditrice, hier, d'avoir la soirée de lancement dans une librairie où ceux qui l'avaient déjà lu étaient particulièrement enthousiastes. Donc, ça me touche. Et je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de retours positifs. Voilà, pour l'instant, il n'est qu'en français. J'ai hâte de voir comment ça se passera quand il sera en grec aussi.
Alors, si vous me permettez, je vais lire l'incipit pour que nos auditrices et nos auditeurs se rendent compte de la beauté de votre écriture. Alors, premier chapitre, Chania. Des petites flammes dans la nuit par centaines partent à l'assaut des vagues. On dirait une armée de lucioles surgit de la mer. Elles avancent en rang, serrées, bravant le flux et le reflux pour gagner le large au plus vite. Parfois, l'une d'elles disparaît, submergée par l'eau noire, mais les autres continuent vaille que vaille de s'éloigner du rivage. Sur la grève, un murmure psalmodié par des dizaines de bouches accompagne le périlleux voyage des petites flammes dans la nuit. Et là, on découvre le premier personnage, Rebecca, s'accroupir. L'écriture est vraiment quelque chose d'important quand on suit aussi le récit. C'est soigné, c'est précis et c'est vraiment très, très agréable. Alors, j'ai pas de questions sur ce point-là à vous dire. Juste dire à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est qu'il y a à la fois du fond, du contenu, des références historiques, un roman que l'on suit avec grand intérêt, puis une écriture poétique, magique et magnifique.
Merci à vous.
Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. C'est de dire aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive pourquoi ils doivent lire ce livre en une ou deux phrases. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je dirais qu'ils vont s'y retrouver, que c'est indispensable d'être avec ces gens et que c'est comme ça qu'on va empêcher et résister à l'anéantissement d'une communauté qui était présente depuis des milliers d'années sur une île et qui n'y est plus. Je pense que s'ils rencontrent Rebecca, Stella, Rachel, Judith, Ariadne, ils vont partir avec elle pour toujours.
Et les suivre. Vous pouvez dire un mot du titre, on n'en a pas parlé. Ce mot en grec, Eleftheria, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire liberté.
Tout simplement, qui est aussi, au-delà de la transmission, le fil conducteur de votre récit. Merci infiniment, Muriel Zack, d'avoir parlé de votre actualité. Je la rappelle, la parution du roman Eleftheria aux éditions Emmanuel Cola. Évidemment, un roman que l'on recommande. Il y a une flopée de livres qui sortent en cette rentrée, mais vraiment, si vous pouvez en acheter un, eh bien, ce serait celui-là. Eh bien, bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir, merci beaucoup.